présentation aujourd'hui sera sur les racines de l'imaginal, ou comme dans l'intitulé qui était précédemment proposé, quelques sources tacites et implicites de l'imaginal. Je vais m'en tenir à mon texte aujourd'hui pour ne pas dépasser le temps, puis avoir un propos quand même assez précis et circonspect. Toutes les citations que je vais lire seront en même temps projetées sur le projecteur. Donc, vous pourrez les suivre avec moi. Ça va vous faciliter un peu la... Un petit reverb. Ça va vous faciliter la compréhension de mon texte. Je suis en train de finir un rhume, donc c'est très possible que je manque de souffle. Voilà. Désolé de toutes ces conditions. Donc, Henri Corbin était un acteur central de la reconquête de l'imagination au 20e siècle. Dans cette sphère, sa contribution consiste essentiellement à avoir forgé les termes « imaginal » et « mundus imaginalis » et à avoir exploré cette dimension spécifique de l'imagination dans la philosophie islamique et de même que dans le mysticisme. Malheureusement, rarissimes sont les recherches visant à comprendre comment il en vient à s'intéresser à l'imagination et surtout par qui il a été influencé. Trop souvent, on ne rappelle que ce qu'il a lui-même écrit à ce sujet et on oublie de sous-peser sa formation théologico-philosophique, de même que les intellectuels qu'il rencontre au cercle Eranos. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous présenter l'influence d'Alexandre Coiré et de Carl Gustav Jung, chacun pouvant être associé à des périodes différentes de la vie d'Henri Corbin, à savoir la période théologico-philosophique de jeunesse et la période éranosienne. En 2011, Daniel De Smet, présent dans cette salle, publia un article très fouillé sur les cités merveilleuses de Jabalka, Jabarsa et Urkalia, du monde des images en suspens de Suravardi au mundus imaginalis d'Henri Corbin. Dans cet article, Daniel De Smet montre que les cités merveilleuses de Jabalka et Jabarsa sont attestées dès le 9e siècle chez Al-Tabari et amplifiées par Abd Allah al-Bahmi au 10e siècle. Il présente ensuite brièvement ce thème chez Suravardi en citant les différents passages où Suravardi indique que sa rencontre avec Aristote s'était justement déroulée à Jabarsa. Des cités alors conçues comme des étapes sur la voie mystique. Toujours dans l'article, il explore ensuite les différents degrés de l'illumination, de la lumière des lumières au monde des âmes célestes en passant par le monde des formes en suspens. La question métaphysique soulevée ici consiste à se demander quelle est la relation entre justement ces différents niveaux de réalité. Il propose au passage une critique de l'influence du chaïrisme sur la lecture et la compréhension de la cité d'Urkalia chez Corbin, montrant qu'il suit littéralement l'enseignement traditionnel du chaïrisme sans s'encombrer des questions de philologie. L'article explore ensuite la notion du huitième climat, c'est-à-dire du monde spirituel, par opposition aux sept climats de la géographie terrestre. Il met en lumière les quatre mondes, c'est-à-dire les deux mondes de lumière, le monde sensible et le monde où il y a à la fois des formes lumineuses et des formes ténébreuses, le monde du bazar. Lieu de passage et de réalisation de soi pour ceux qui, contrairement aux sages parfaits, atteignent directement le monde des lumières intelligibles. Il rappelle aussi que c'est le commentateur du Kitab al-Ishraq de Suravardi, Qutb al-Din al-Shirazi, qui transforme la notion de « monde des images en suspens » en « alam al-mital », en « monde de l'image ». Une transformation qui ouvre alors l'exploration d'un monde spirituel complexe. Un monde que le mystique explore et qui lui permet de témoigner directement des réalités divines. Chez Corbin, le terme « monde imaginal » ou sa forme latinisée « mundus imaginalis » traduit littéralement l'expression « alam al-mital ». Enfin, dans son article, Daniel De Smet propose, en deux petites pages fort allusives, de revenir à la rencontre de Corbin et Jung afin de comprendre le point de départ de sa conception de l'imagination créatrice et du « mundus imaginalis ». Si je pense que Daniel De Smet voit clair lorsqu'il exprime rondement cet important moment de cristallisation de la pensée, je pense qu'il faut aussitôt ensuite remonter à Coiré et à Jean Baruzzi pour comprendre que la rencontre avec Jung est moins l'intégration d'un apport proprement jungien que l'opportunité pour Corbin d'exprimer plus librement sa propre pensée. Ce que je propose aujourd'hui, c'est de remonter le réseau d'influence de la pensée de Corbin afin de montrer que, somme toute, sa pensée peut être comprise comme un continuum plutôt que comme empreinte de rupture. Je pense qu'il ne faut pas séparer la pensée théologico-philosophique du jeune Corbin de ses recherches qui l'amèneront à être un découvreur de Suravardi et un fondateur et le fondateur de l'iranologie. Premier contact avec la notion d'imagination. Il est difficile de déterminer le moment précis où Corbin s'intéresse pour la première fois à la notion d'imagination. Cependant, la trace la plus ancienne que j'ai trouvée laisse penser que c'est lorsqu'il suivait, en 1925, la conférence temporaire d'Alexandre Coiré à l'École pratique des hautes études sur le mysticisme spéculatif en Allemagne, qu'il est initié à la problématique et au rôle de l'imagination en philosophie. En effet, immédiatement après avoir terminé sa thèse sur l'idée de Dieu et les preuves de son existence chez Descartes, Coiré présente, de 1922 à 1927, un cycle de conférences temporaires à l'École pratique des hautes études sur le mysticisme spéculatif en Allemagne. Dans la première conférence de ce cycle, il traite de l'influence de Böhm et Baader. En 1924, il poursuit ses recherches en proposant notamment un cours sur les doctrines religieuses de Schleiermacher et de Schelling. Il cherche à démontrer l'influence du mysticisme médiéval et de la Renaissance sur les doctrines de l'idéalisme allemand. À ce moment-là, on est vraiment au cœur de l'hypothèse originale d'Alexandre Coiré et centre de gravité de toute sa pensée, à une hypothèse qui se trouve formulée dès 1924 dans le compte-rendu de son cours publié dans les annuaires de l'École pratique des hautes études. Dans cet annuaire, on peut lire « Les différentes positions philosophiques des systèmes post-kantiens sont déterminées avant tout par des positions religieuses. Leurs thèses philosophiques traduisent des positions et des inspirations théologiques et c'est pourquoi ils sont tous dans une opposition irréductible au kantisme et tous animés du désir de reconquérir pour l'homme cette place centrale dans l'univers que lui assigne la théologie mystique. » Le cours auquel assistera Corbin en 1925 se veut l'application directe de cette hypothèse par la recherche des influences théologiques et mystiques subies par Fichte et relevées en creux par la polémique avec Schelling, qui a lui-même subi l'influence d'Oettinger. En passant alors par Böhm, Paracels et Sébastien Franck, le cours suivi par Corbin s'est particulièrement intéressé, dans une perspective de théologie négative, à l'idée de corps et de l'imagination. Coiré l'explique clairement dans le résumé de 1925. Nous avons pu établir chez Fichte la persistance de la croyance au corps subtil, corps éthérique ou spirituel. L'idée de l'imagination a donné lieu à un contresens historique très curieux. Or, nous avons pu établir que Novalis avait identifié la conception de Fichte avec celle de Paracels et avait cru retrouver chez Fichte la doctrine du rôle créateur et magique de l'imagination force plastique. Cette petite présentation des cours de Coiré sur le mysticisme spéculatif en Allemagne témoigne de l'importance de ses enseignements sur le destin philosophique de Corbin. Je vous rappelle, ici, on est en 1925, le jeune Corbin a à peine 22-23 ans. Car ces notions de corps spirituel, de corps subtil, d'imagination, de théologie négative et de théosophie sont tous des thèmes très centraux dans l'œuvre que Corbin produira en s'intéressant à la philosophie islamique. La présence des mystiques spirituels et alchimistes allemands prend aussi une nouvelle dimension, car cela indique que sa source première pour la compréhension des mystiques spirituels et alchimistes allemands, qu'il aime tant citer en contrepoint des mystiques et spirituels iraniens, est certainement Coiré. Malheureusement, les notes du cours de 1925, j'ai pas réussi à les retrouver aux archives Corbin, parce qu'on a quand même beaucoup de notes de cours, mais ceux de ce cours-là n'ont pas été retrouvés. Donc, si ce cours de 1925 était le seul contact que Corbin avait eu avec Alexandre Coiré, il serait facile d'en minimiser l'influence. Mais faire cela serait négliger le fait qu'ils seront de proches collaborateurs pendant près d'une décennie entre 1930 et 1939. En effet, le fascicule de la revue Bifur de 1931, qui contient la toute première traduction française d'un texte de Martin Heidegger, traduction signée par Henri Corbin Petit-Henri, fait aussi place à une petite introduction qui porte quant à elle la signature d'Alexandre Coiré. De 1931 à 37, Coiré est aussi le principal protagoniste des recherches philosophiques et dans les 6 forts volumes de cette incroyable épopée philosophique annonçant presque toute la philosophie du 20e siècle, on trouve les principaux travaux de Henri Corbin, notamment pour l'anthropologie philosophique et la théologie dialectique et l'histoire. Sans oublier les 19 comptes rendus de lecture que Corbin va y publier. Enfin, en 1937, lorsque Coiré part en mission au Caire, il demande à Corbin de le suppléer à l'EPHE, mais aussi de superviser et de coordonner la publication des recherches philosophiques. Toutes ces collaborations indiquent l'amitié et le respect mutuel que se vouaient les deux hommes. Voilà pourquoi Corbin fut le dernier de ses collègues aux hautes études à lui serrer la main à la clinique la veille de son décès. Le livre sur Jakob Böhm de Coiré. Mais comme je vais le présenter, la notion d'imagination vera ne se trouve pas textuellement ni chez Coiré, ni chez Jung, ni chez Paracelse. On peut se demander alors d'où vient cette notion. Une hypothèse plausible est que la notion aurait été calquée d'après la traduction latine d'un livre de Böhm. Comme Coiré l'indique dans sa monumentale monographie sur Jakob Böhm, publiée en 29, les 40 questions de l'âme, qui avaient été intitulées lors d'une traduction latine en 1632, Psychologia Vera. Hein, est-ce là que Corbin aurait pris l'idée d'une imagination vera? La question est ouverte. Reste que si Böhm, le Böhm de Coiré, est une des sources importantes de sa conception de l'imagination, nous savons avec certitude, par une liste de lectures qui se trouve aux archives Corbin, qu'il avait emprunté le livre en 1932 à la Bibliothèque nationale de France. Mais plus significatif encore, ce livre de Coiré se trouve aussi dans son ex-libri qui a été donné à l'École pratique des hautes études. Une copie qu'il avait pris soin même de faire relier dans une très belle reliure, un peu verte, comme ça en cuir, donc vraiment une belle reliure. Le livre comporte aussi de nombreuses annotations et beaucoup de soulignements. Il est cependant à peu près impossible de dater les marques parce que Corbin faisait toujours ses marques au crayon à papier, et donc voilà. Nous devons donc nous restreindre aux citations de son œuvre si nous voulons situer ses lectures. Je pense que nous pouvons dire que Corbin a parcouru et utilisé le Böhm de Coiré à au moins 3 reprises. D'abord dans sa jeunesse, par la fréquentation directe de Coiré, ensuite vers 1956, lorsqu'il travaille à sa conférence sur l'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi, et enfin à la toute fin de sa vie, lorsqu'il écrit de la théologie apophatique comme antidote du nihilisme. Par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le alam al-mital, le monde imaginal, le terme se trouve à 3 reprises dans la marge du livre de Coiré. À la page 120, voici ce qu'on peut lire à côté de cette glose. Le monde divin n'est point, nous l'avons déjà vu, un monde d'où le sensible serait banni. Merci. Bien au contraire, c'est là qu'il règne en toute beauté. Puis à la page 155, à côté de Alam al-Mital, on peut lire « Dans le salitaire divin, pense-t-il, se forment de toute éternité des images, des figures. Ce sont, pour ainsi dire, des songes de l'imagination divine, des prototypes, des idées. C'est, en effet, le monde des idées imaginées flottantes, intemporel, incorporel et presque irréel. » Le plus frappant aussi du soulignement qui se trouve dans le livre de Coiré qui est déposé à la bibliothèque de l'École pratique des hautes études est que celui-ci est quasiment entièrement relatif à ce que Corbin appellera plus tard les formes imaginales. À cela, il faut ajouter que la naissance de Dieu et le personnalisme de Böhm ont aussi particulièrement retenu son attention, comme on le voit dans le soulignement. L'imagination vera entre Jung et Coiré. Le terme imaginal rapproche immédiatement la pensée jungienne de la pensée corbinienne. Mais si l'on se demande quel est l'apport de Jung dans l'élaboration du concept, ce n'est pas la notion d'imaginal que l'on doit rechercher, mais celle d'imaginatio vera. En effet, l'apparition de la notion imaginatio vera dans l'œuvre de Corbin est liée à des références à l'œuvre de Jung. Des références qui se trouvent dans sa première conférence prononcée au Cercle Eranos en 1949. L'apparition soudaine de références à Jung et à l'imaginatio vera dans sa première communication à Eranos soulève bien évidemment plusieurs questions lorsque l'on sait ce que je viens de présenter par rapport à Coiré. Corbin mentionne souvent la notion d'imaginatio vera et l'attribue systématiquement à Paracelse. Et il utilise cette notion pour faire la distinction entre l'imaginaire chimérique, la fantasia, et l'imaginaire réel, l'imagination. Il écrit par exemple, comme l'observait déjà Paracelse, à la différence de l'imaginatio vera, la fantaisie est un jeu de la pensée, sans fondement dans la nature, elle n'est que la pierre angulaire des fous. Or, d'après les écrits de Corbin, la notion d'imaginatio vera est de Paracelse. Il va toujours la présenter de cette manière-là. Et comme Coiré et Jung ont tous les deux aussi étudié les écrits du médecin alchimiste suisse, il est alors difficile de déterminer qui de l'un ou de l'autre a pu influencer Corbin. Ici, il faut donner le crédit de la distinction entre imaginatio et fantasia à Coiré ou à Jung. Coiré écrit dans son article sur Paracelse, daté de 1933, qu'il ne faut pas confondre l'imagination et la fantaisie. Cette dernière n'a aucune puissance, ces images flottent dans notre esprit sans lien profond ni entre eux, ni entre eux et nous-mêmes. La fantaisie est sans fondement dans la nature. De son côté, Jung soulève la même distinction entre imaginatio et fantasia. Et il cite, en appui à cette distinction, le Liber Rosarium Philosophorum dans sa conférence Eranos de 35, qui servira de fondement à son livre Psychologie et Alchimie, livre que Corbin cite quand il cite la notion justement d'imagination dans ses premiers textes. Corbin introduit, lui, pour la première fois la notion d'imaginatio vera dans sa conférence à Eranos de 1949, et donne justement en note un texte de Jung. Et on peut lire « Si l'on interroge sur l'organe essentiel de l'opération alchimique, celui par lequel elle se révèle à soi-même son phénomène, nous savons que cet organe est désigné par les alchimistes latins comme « imaginatio », nullement au sens vulgaire du mot « imagination » en français, fictif ou irréel, mais précisément « imaginatio vera et non fantastica ». Pourtant, le passage du Liber Rosarium Philosophorum, auquel Corbin se réfère à travers le texte de Jung, est légèrement différent. Dans ce Liber Rosarium Philosophorum, on peut y lire « et hoc imaginare per veram imaginationem et non fantasticam ». En fait, la locution latine « imaginatio vera » n'apparaît pas chez Jung, même s'il discute de l'imagination active et même de l'imagination vraie. Le terme latin « imaginatio vera » n'y est pas présent. Donc, en isolant cette expression, Corbin apparaît à la fois comme un lecteur attentif de Jung et aussi comme un précurseur de Jungiens qui viendront plus tard, comme Marie-Louise von Franz et ou Barbara Anna. Le problème d'attribution est alors le suivant. Si Jung et Coiré parlent de l'imagination vraie par opposition à l'imagination chimérique, c'est Corbin qui rapproche la pensée de Paracelse de l'expression du rosaire des philosophes et l'attribue à Paracelse, même si elle ne se trouve pas textuellement dans l'œuvre du médecin alchimiste suisse. D'ailleurs, dans sa conférence Eranos de 73, Gilbert Durand proposait un rapprochement de l'approche paracelsienne de la médecine avec sa propre science de l'homme. Le texte montre, de la part de Gilbert Durand, une lecture très soutenue de l'œuvre de Paracelse, et lorsque Durand fait une place à la notion d'imaginatio vera dans sa réflexion, justement, il ne cite pas lui non plus l'expression imaginatio vera, hein, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il l'avait lui-même trouvé dans les textes de Paracelse. Alors, est-ce à travers l'œuvre de Coiré que cette distinction est intégrée par Corbin, ou bien est-ce en lisant Hume que celle-ci prend racine? Une chose est certaine, Corbin ne cite jamais directement les textes de Paracelse et passe directement par Coiré, si à la première occurrence de l'expression « imaginatio vera » en 49, il indique en note le texte de Jung, dès que son vocabulaire autour de l'imagination se stabilise, Corbin ne donne ni Jung ni Coiré en référence. Donc les références aux deux hommes vont disparaître. C'est le cas du prologue de sa conférence Eranos de 1956, qui deviendra plus tard la deuxième partie de son célèbre livre sur l'imagination créatrice. Corbin se distancie-t-il pour autant de Jung? Hein, il semble que non, puisqu'il continue à citer Jung dans la plupart de ses ouvrages. On ne peut donc pas parler d'une distance, surtout qu'au moment même où, à ce moment-là, donc vers 1956, il y a un projet avec Iliade, un projet de livre sur Jung avec Iliade, qui est toujours sur la table. Ce qui surprend cependant, lorsque l'on regarde les textes de Jung cités par Corbin, c'est la disparition après 1956 des références à l'alchimie et à l'imaginatio vera. Cette discussion est importante car l'apport essentiel retenu par ces différents collègues d'Eranos et par la psychologie analytique en particulier, hein, cet apport de Corbin va toujours presque tourner autour des questions de l'imagination et du mundus imaginalis. Jusqu'à la publication en 1964 de son célèbre article Mundus Imaginalis ou l'imaginaire et l'imaginal, il y a de nombreux flottements dans le vocabulaire de Corbin liés à l'imagination. Sans relever exhaustivement les épithètes associées aux mots de l'imagination, elles sont très nombreuses. Car l'imagination peut être, d'après les textes de Corbin, créatrice, active, vraie, autonome, séparée, théophanique, immanente, absolue ou même divine. Dans l'œuvre de Jung, on trouve déjà les notions d'imagination créatrice et active, et il paraît assez évident que cela a influencé Corbin. Il ne faut cependant pas confondre l'utilisation corbinienne et jungienne, car Corbin utilise le terme en contexte exclusivement métaphysique et religieux. Tandis que pour Jung, l'imagination permet de créer des images mentales supportant un dialogue intérieur et créateur, par lequel les choses passent d'un état potentiel inconscient à un état manifeste. Jung reste fondamentalement un psychologue, même si sa propre dimension spirituelle n'est jamais bien loin. Tandis que pour Corbin, à travers les mystiques et théosophes iraniens, il conçoit cette même idée dans un contexte proprement religieux, ce qui n'a pas les mêmes conséquences. Dès lors, chez Corbin, l'imagination n'est plus seulement cette capacité à rendre manifeste un contenu intérieur, mais la capacité à rendre manifeste la présence de Dieu par un contenu intérieur. L'imagination est littéralement théophanique et l'espace dans lequel la divinité se manifeste correspond au mundus imaginalis. Par contraste, on comprend alors que chez Jung, l'imagination est une sorte de pratique de soi. On peut parler des pratiques ou techniques de l'imagination active visant à rendre manifeste les contenus de l'inconscient. Une technique qui, lorsqu'il l'a appliquée à sa propre vie intérieure, Jung lui a permis de réaliser le fameux livre rouge. Et comme il l'écrit dans Type psychologique, c'est pourquoi la fantaisie créatrice me semble être l'expression la plus claire de l'activité psychique spécifique. Elle est surtout l'activité créatrice d'où proviennent les réponses à tous les problèmes que nous pouvons résoudre, la mère de toutes les possibilités dans laquelle monde intérieur et monde extérieur forment une unité vivante, comme tous les contrastes psychologiques. Donc, la fantaisie fut et est toujours ce qui jette les ponts entre les exigences inconciliables du sujet et de l'objet, de l'extraversion et de l'introversion. C'est uniquement dans la fantaisie créatrice que les deux mécanismes se trouvent réunis. La structure de l'imagination proposée par Corbin est très similaire à celle proposée par Jung dans sa psychologie. Hein, il y aurait même aussi à se demander sérieusement si, par exemple, les types introvertis et extrovertis ne seraient pas à l'origine de la typologie ésotérique-exotérique si caractéristique de l'herméneutique corbinienne. Si chez Jung, l'imagination est conçue comme un pont entre le sujet et l'objet, où la réalité de la vie intérieure est mise en conjonction avec la réalité extérieure, afin que la psyché puisse faire sens du monde dans lequel elle est immergée, voilà que chez Corbin, cette structure est proprement métaphysique. Corbin l'écrit dans sa charte de l'imaginal, « L'imagination créatrice est essentiellement puissante médiane et médiatrice, et même, de même que l'univers auquel elle est ordonnée et auquel elle donne accès est un univers médian et médiateur, un intermonde entre le sensible et l'intelligible, intermonde sans lequel l'articulation entre le sensible et l'intelligible est définitivement bloquée. » Cet univers médian et médiateur, c'est le mundus imaginalis, un monde qui, sans tenir une position métaphysique aussi forte que celle de Corbin, s'appelle chez Jung le mundus archetypus, et est un monde qui s'explore justement par l'imagination. Réappropriation et distance. Si l'imagination créatrice se mutant en imaginal, l'expression mundus imaginalis a elle aussi évolué au fil des ans. Et même si sous sa forme latine, elle s'impose comme ayant toujours existé, il s'agit bel et bien d'une création d'Henri Corbin. Avant d'être simplement Mundus Imaginalis, celui-ci a été Mundus Archetypus, Mundus Imaginalis Archetypus, Terre de l'imagination, Monde de l'imagination, Monde des idées-images et Monde archétype. Alors, l'imagination créatrice, pour éviter de la confondre avec la fantaisie, Corbin préfère la désigner simplement, lorsque son vocabulaire s'affine, par le terme « imaginal ». Une difficulté qui mène rapidement à des dérives, car le terme « imaginal » ne dénote pas une réalité psychologique pour Corbin, le terme réfère à une réalité métaphysique. Ce flottement de vocabulaire n'a pas toujours été présent. Par exemple, en 1952, lorsqu'il travaille sur Avicenne et le récit visionnaire, il écrit « Il ne s'agit pas d'une image résultant de quelques perceptions extérieures préalables, mais d'une image qui devance toute perception, à un a priori qui exprime l'être le plus profond de la personne, ce que la psychologie des profondeurs appelle une imago. » On voit donc Corbin, en 1952, développer une réflexion sur le récit visionnaire d'Avicenne à partir de catégories jungiennes, reprenant à son compte les notions d'imago, d'archétype et de synchronicité. Voici ce qu'il écrit toujours dans Avicenne et le récit visionnaire vers la fin du livre. Ce ne sont pas de simples projections accomplies au gré subjectif de l'esprit. Il découvre à l'esprit une région non moins objective que le monde sensible. Leur spontanéité est si loin d'être arbitraire qu'elle présente des récurrences frappantes dans des cultures si bien séparées par le temps ou l'espace qu'aucune filiation par causalité historique ne pourrait les expliquer. Les symboles avicenniens nous ont été l'occasion de signaler plusieurs de ces récurrences. Ils ont motivé par la même également quelques références aux recherches psychologiques de C.G. Jung. Et c'est ce flottement dans le vocabulaire corbinien qui le poussa d'ailleurs à faire une seconde édition de l'imagination créatrice d'Ibn Arabi, de même qu'une seconde édition de Terre céleste et corps de résurrection qui deviendra lors de la seconde édition corps spirituel et terre céleste. En effet, dans ces deux livres, il va uniformiser son vocabulaire afin de le détacher de ses attaches trop jungiennes. Par exemple, dans son appellation complète, le Mundus Imaginalis Archetypus, le terme emprunte clairement l'une des idées maîtresses de Jung, à savoir l'idée d'archétype. De même, il utilise régulièrement les termes image-archétype dans sa conférence Eranos de 53, qui est à la source de corps spirituel et terre céleste. Ainsi, image-archétype ou mythe deviennent, dans la seconde édition de ce livre, tout simplement forme imaginale. Voici deux passages qui thématisent au mieux la distance que Corbin va prendre de la pensée jungienne, justement dans la seconde édition de son livre Corps spirituel et terre céleste. Donc, dans la première édition, on peut lire, donc dans la forme originale de sa conférence à Eranos en 1953, elle représente dans le masdéisme ce que la psychologie des profondeurs nous a appris à discerner comme image archétype. Elle est ici l'imago animae. En 1978, il réécrit, elle représente dans le masdéisme ce que l'ontologie du mundus imaginalis nous a appris à discerner comme l'imago, la forme imaginale. Elle est ici cette forme imaginale de l'âme que nous thématiserons en imago animae. Donc on voit la disparition de la psychologie des profondeurs. Encore une fois, Corbin ne discute pas directement des termes comme archétypes, ni n'analyse ces termes à la lumière des écrits de Jung, et parce qu'il finit par les abroger dans ses œuvres, le lecteur pense pas immédiatement faire la référence à Jung, même s'il y a encore bien des similitudes apparentes dans ses textes. Corbin s'explique lui-même à propos de la distance qu'il instaure entre lui et Jung. Il écrit dans son post-scriptum biographique « Mais il me fallait bien constater ceci. Tout ce que le psychologue, hein, parlant de C.G. Jung, énonce sur l'imago prend pour le métaphysicien un sens métaphysique. Tout ce que celui-ci énonce est interprété par le psychologue en termes de psychologie. D'où tous les malentendus possibles. C'est pourquoi, je le disais si déçu, qu'après s'être informés l'un de l'autre, il faut accepter la séparation inévitable au moment où il le faut. Cette posture du métaphysicien engagé donne une forme d'explication au fait qu'il ne se réfère plus vraiment à Jung sur cette question dès les années 60. Donc, il va même jusqu'à écrire dans plusieurs textes que c'est en travaillant dans son dictionnaire latin qu'il a forgé l'expression. Des mentions qui occultent encore un peu plus l'influence de Jung sur la conception corbinienne de l'imagination et qui montrent qu'en un sens, il a fait sienne cette idée du monde intermédiaire. Donc, dans un article de 1966, on peut lire « Et c'est justement cette dernière expression, à l'âme almitale, qui naguère encore m'a fait sentir nos insuffisances. Il ne m'était pas possible de traduire comme signifiant le monde de l'imaginaire, car ce n'est pas de l'imaginaire, et nous ne faisons qu'aggraver l'équivoque lorsque nous concédons une réalité à l'imaginaire. Non, il nous a fallu simplement, à l'aide du dictionnaire latin, trouver une expression adéquate, et nous avons commencé à parler de l'imaginal. » Il y aurait aussi à se demander si l'imaginal n'a pas plus en commun avec historial qu'avec la psychologie analytique. Parce que la distinction entre historique et historial répond en un sens à la distinction entre imaginaire et imaginal. Et revenir à cette distinction, ça serait aussi revenir sur l'intégration centrale de l'apport théologico-philosophique de la jeunesse de Corbin. On trouve aussi des passages où Corbin indique la limite de la psychologie. C'est le cas vers la fin du volume 2 de son opus magnum en islam iranien, lorsqu'il écrit « L'acte foncier de la connaissance de soi est donc un réveil provoquant la réminiscence de ce que fut le gnostique avant de venir en ce monde-ci. Cela présuppose donc une mémoire dont le pouvoir a une portée infiniment plus lointaine que ce qu'envisage habituellement la psychologie. » Et tout comme son utilisation de la notion du monde imaginal pour parler de l'œuvre de Suravardi, son utilisation des théosophes étudiés par Coiré n'est pas non plus sans générer quelques polémiques au fil des ans. En effet, Corbin semble plus influencé par l'image intérieure qu'il s'est construite que par les textes eux-mêmes. Oettinger, qu'il aime citer pour sa notion de Geistlieblichkeit, de corporalité spirituelle, ou simplement de corps spirituel, est l'un de ces exemples. En 1975, lors de la deuxième session de l'Université Saint-Jean de Jérusalem, dont Corbin est le principal animateur et organisateur, il invite son ami Ernst Benz, qu'il connaît depuis au moins 1953, à faire une conférence sur Oettinger autour du thème « Jérusalem, la cité spirituelle ». Lors de cette communication, Benz présenta spécialement les critiques d'Oettinger adressées à Swedenborg, un visionnaire que Corbin affectionnait tout particulièrement. et cela dans un souci d'objectivité historique. Or, dans le volume des actes du colloque, Corbin fera suivre le texte de Benz par une note anonyme de 2 pages visant à dissiper un grave malentendu. Cette note anonyme est bien évidemment rédigée par Corbin lui-même, comme le montre le brouillon qui se trouve aux archives Henri Corbin. Antoine Fèvre résume parfaitement le problème dans un article assez critique de Corbin. En fait, Antoine Fèvre nous dit, en fait, on y voit Corbin faire dire à Oettinger ce que lui, Corbin, aurait aimé qu'Oettinger eût dit. On l'y voit se faire le médiateur entre les deux théosophes, mais en tirant Oettinger du côté de Swedenborg et en exposant davantage sa propre pensée philosophique que celle des deux parties en présence. Tout cela pour dire que Corbin ne dissipe pas ce grave malentendu en citant des textes d'Oettinger par un correctif historique ou textuel. Hein, il tente de dissiper ce grave malentendu en projetant sa propre philosophie du monde imaginal et en faisant appel à une rencontre projetée entre les deux théosophes, rencontre qui n'a pourtant jamais pu se réaliser, car pour Corbin, la corporalité spirituelle dont il est question chez Oettinger, ça rapporte précisément à ce que lui appelle la corporalité imaginale. Contrairement à Benz, Corbin ne s'en tient pas qu'à l'histoire des idées. À travers ses lectures, il opère une relecture qui laisse transparaître sa propre philosophie du mundus imaginalis. Tout cela pour dire que les apports de Coiré et Jung sont essentiels si l'on veut analyser la conception de l'imagination de Corbin, mais il ne faut jamais oublier la posture métaphysique à partir de laquelle il parle. Une posture qui ne rend ni justice à l'un, ni justice à l'autre, donc Jung et Coiré. Puisque dans son article « Mundus Imaginalis ou l'imaginaire », ni un ni l'autre n'est cité, ce qui complique la tâche des commentateurs comme moi, et amplifie l'idée que l'œuvre de Corbin est une sorte de continent isolé. Au final, il faudrait une analyse détaillée de la réception du mysticisme spéculatif allemand, tel que Coiré y a introduit Corbin, analyse qui devrait se doubler d'une réflexion sur les différences d'utilisation et de compréhension de la notion d'imagination active chez Jung et Corbin. Dans cette double tâche, que je ne vais pas entreprendre ici, il y aurait à regarder particulièrement la récupération de la notion d'imaginal dans l'œuvre de James Hillman, qui est très influencée par Corbin, et ou dans toute la psychologie analytique, particulièrement aux États-Unis. Cela permettrait, je pense, de mieux comprendre pourquoi Corbin insiste pour prendre ses distances de la psychologie. Et si plusieurs points de détail mériteraient d'être creusés, reste que pour Corbin, Eranos était un lieu de pure liberté spirituelle et intellectuelle. Non seulement il pouvait, lors de ses conférences, présenter son point de vue personnel, mais il s'en faisait un devoir. Cette liberté spirituelle est probablement l'élément le plus important. Il le rappelle lui-même dans un petit texte sur Eranos, il dit, je cite, la présence de Jung a été l'occasion de contact qui n'aurait pas pu se produire en dehors de cette atmosphère de liberté spirituelle absolue, en parlant d'Eranos, où chacun exprime sans souci d'aucun dogme officiel et en ne s'efforçant qu'à être soi-même, à être vrai.
Un grand merci Daniel pour cet exposé très riche, très documenté, très subtil. Merci aussi d'avoir respecté le temps, ce qui nous permet maintenant de poser quelques questions. Je ne sais pas si parmi vous, certains pourraient faire des remarques, poser des questions à notre orateur.